Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir et bienvenue à la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, partout dans le monde et dans l'univers. Et nous sommes, nous, en fait, le 27 à 15h23, autant vous le dire. Donc, peut-être il s'est passé un truc important entre-temps, mais voilà, on n'était pas là pour vous en parler. Et ce soir, on a Clara avec nous.
Bonsoir.
Et Jean-Yves.
Bonsoir.
Et Fab. Bonsoir. Alors, on rigole un peu parce que, bon, bah, on est un peu comme à la maison, donc on est tous bien détendus.
Pas ah oui. Radio. Bah oui, on est dans le plus grand confort.
Voilà, exactement. Et donc, bah, je vous rappelle que pour nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com, que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et que sinon, on est aussi sur des réseaux sociaux commerciaux, des diffuseurs en streaming, mais de partout, vous cherchez La Causerie Canu et vous nous trouverez, parce que parfois, on tag des La Causerie, mais ce n'est pas la bonne. Voilà. Bébli, si tu nous entends, voilà. Ok, ouais, mais ce n'est pas grave. Et donc, ce soir, eh ben, une émission autour de deux gros thèmes et puis une diffusion qu'on fera plus tard. Et on commence par toi, Jean-Yves, qui voulait nous parler un petit peu de cette période un peu bizarre qu'on traverse en ce moment.
C'est ça. Bah ouais, j'ai eu envie de partager avec vous une réflexion que je me suis fait, hein, évidemment, en ces temps covidiens, covidique, je ne sais pas, mais bon, vous aurez compris l'idée. Alors évidemment, hein, je pourrais revenir longuement sur les décisions, les déclarations faites par le gouvernement, sur lesquelles il revient 3-4 jours après.
Parfois si 3-4 heures.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Si ce n'est pas le lendemain, mais même effectivement, des fois, ça joue à des heures, quoi. Donc, genre, en France, on ne fera pas de vaccinodrome parce que, bon, hein, nous, on sache. Bon, sauf que qu'est-ce que met le gouvernement en place? Des vaccinodromes. Ouais, c'est assez rigolo en ce moment. Si vous avez envie de rire, écoutez les déclarations de nos gouvernants. C'est toujours un bon moment de franche rigolade. Enfin bref, mais sûrement que c'est aussi ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Hein. Ça doit être là, hein, je pense. Hein.
On fait pire que les autres, mais nous, on y met la forme.
Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin voilà, bref, le reconfinement est remis en place un peu partout et pas qu'en France. Bon, en fait, vous aurez bien compris qu'il n'a jamais vraiment disparu, le confinement. Hein. Donc, on sait, on en a parlé ici, on en discutera certainement encore, que bah, parfois, le confinement, bah, il est inévitable, en fait. Lorsque le taux d'infection est en hausse, avec une augmentation des hospitalisations, des mises sous respirateurs en réanimation. Et voilà. Donc, et on n'oublie pas non plus, hein, parce qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui s'appellent outils de modélisation, qui permettent en fait d'anticiper justement la situation à 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc voilà. Donc,
ouais. C'est les fameux outils que ne sait pas lire notre président.
C'est exactement
ça. Il dit que
ça.
Les outils se sont plantés, alors que les outils disaient exactement ce qui se passait aujourd'hui.
C'est ça. C'est surtout qu'il a dit que lui n'a fait aucune erreur.
Ouais, bah lui, non.
Sauf qu'en fait, il en a fait des grosses. Mais ce sera ni la première ni la dernière. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, augmenter en fait les places en réa, bah, ça ne change pas forcément grand-chose, hein, au taux de contamination. On aura juste plus de personnes en réa. Je préviens aussi, ce n'est pas un plaisir, hein, d'être cloisonné chez soi. Hein. Je ne suis pas là pour dire « Youpi, super, vive le confinement !» Sauf que je n'oublie pas non plus, hein, une donnée qui est un petit peu… on oublie souvent, j'ai l'impression, bah, c'est que on n'est pas des surhumains, en fait, et que la nature… Que certains adorent vénérer, Pachamama, toutes ces conneries, bah, n'a pas que des choses formidables à nous offrir, des choses sympathiques. Non, il y a aussi des virus. Donc voilà, donc il faut apprendre à vivre avec, il faut, voilà. Donc le confinement, hein, c'est des fois inévitable. Alors évidemment, on peut discuter aussi de ce qui est essentiel, de ce qui n'est pas essentiel, etc. Ça, c'est forcément à faire. Et le confinement est forcément aussi à mettre en lien avec les autres solutions en fait, qu'on peut saisir pour contrer l'avancée du virus, ou du moins la transmission du virus. Donc si au début, hein, on n'avait que des masques et du gel, enfin bon, après que le gouvernement nous ait fait croire que ça ne servait à rien, mais surtout pour ne pas assumer le fait qu'on n'avait plus assez de masques, bon, bah, aujourd'hui, c'est plutôt tout à fait la même situation, hein. Évidemment, masque, gel, ça sert toujours, c'est toujours utile, il ne faut surtout pas les lâcher, même si on commence à vacciner. On n'est pas à un taux de vaccination suffisant pour que tout le monde se dise, ça y est, on lâche tout. D'ailleurs, on peut aussi espérer que justement, masque et gel, en fait, comme dans d'autres pays, en fait, eh ben, ça deviendra une habitude en fait, de les porter quand on sera malade, genre quand on a une grippe ou autre, pour se protéger soi, pour protéger surtout les autres. Et pareil avec la désinfection des mains, genre quand il y a une grippe, une gastro, par exemple. C'est peut-être des trucs qu'on peut se dire, va falloir les garder.
D'ailleurs, on sait que ça marche parce que des pays qui pratiquent déjà ça depuis longtemps ont des taux d'épidémie de gastro et de grippe très faibles. Et on a vu cette année, du fait qu'on avait les gestes barrières, la gastro et la grippe extrêmement diminuées chez nous, alors qu'on est un pays, la France, réputée pour ses épidémies de
Oui,
gastro parce qu'on est très crade des mains.
c'était oui, pas que des mains, je crois.
Voilà.
Enfin bref, donc effectivement, voilà, c'est j'ose espérer qu'on retiendra ce genre en tout cas d'apprentissage qu'on retiendra. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, hein, bah, la situation, c'est plus tout à fait la même parce qu'on a quand même pas mal de vaccins en fait qui ont vu le jour et qui continuent encore de voir le jour. Et en sachant que le vaccin, enfin, c'est sûr, on le sait, que c'est la seule porte de sortie face au Covid-19 et ses variants. Ah ouais, parce qu'il y a aussi les variants, il ne faut pas les oublier, qui eux aussi aggravent la situation. Hein. Clairement, ça n'allège pas la situation, ça ne fait que l'alourdir et l'aggraver. Et évidemment, dans tout ça, il y a aussi les choix politiques, idéologiques, hein, de ceux et celles qui nous gouvernent, loin d'une pseudo-neutralité des choix. Comme si la neutralité pourrait exister. Donc, comme on le dit souvent ici, hein, tout est politique. Alors évidemment, bah, la gestion d'une pandémie, c'est aussi politique. Et là, que voit-on? Eh ben, ce qui se passe souvent, hein, c'est-à-dire, enfin, pour ne pas dire toujours, bah, c'est-à-dire une facilité finalement pour les tenants du pouvoir politique à restreindre les libertés individuelles et collectives, plutôt que d'intervenir, dans la belle marche du business triomphant. Parce que oui, hein, si les libertés collectives et individuelles sont négociables, la liberté du marché, elle, est tout à fait non négociable. Retenez bien ça. Donc, je m'explique. Depuis mi-décembre, hein, il y a une mise en place de la vaccination à travers le globe, des pays qui avancent vraiment formidablement bien, etc. Et depuis, évidemment, des voix se sont élevées pour demander une mise à disposition libre de droit des vaccins afin de les fabriquer et de les vendre avec juste la prise en compte des coûts de fabrication, et donc ça veut dire sans marge, en fait, pour les fabricants. Et là, attention, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je vais citer quand même deux, trois trucs, hein, c'est délicieux. C'est vraiment compliqué à mettre en place en France. Je précise quand même qu'il y a des textes, en fait, hein, qui rendent la chose possible. Je cite une autre personne qui dit, on ne résoudra pas le problème de la production à court terme. Ou encore, derrière les questions de propriété intellectuelle se cachent aussi des problèmes de logistique tout aussi contraignants. Voilà, c'est un package global, hein. On ne peut pas faire une chose après l'autre. Non, non, tout est comme ça, on peut pas, on ne peut rien faire.
Et surtout, c'est étonnant parce que si on croit ces phrases-là, ça veut dire qu'en fait, on ne pourrait déjà rien faire aujourd'hui. Parce que les problèmes de logistique, a priori, ils existent de toute
Ils
façon.
existent,
Hein.
oui.
Donc, c'est marrant, c'est toujours les mêmes excuses qui sont ressorties du
C'est ça,
chapeau,
c'est ça.
systématiquement, quoi.
Donc, bref, hein, on l'a remarqué, il y a des possibilités, il existe des procédés, mais non, c'est trop, trop difficile de contraindre les labos, les industriels, nous disent les gentils politicards et les patrons. Donc, on est bien là, finalement, dans une logique purement politique, idéologique. Et attention, hein, je ne dis pas que, enfin, en soi, ce n'est pas grave, hein, que ce soit politique. C'est juste que souvent, on nous présente, en fait, la gestion comme hors du politique, quoi. Sauf que non, on sait bien, on le répète encore une fois, tout est politique tout le temps. Alors bon, évidemment, hein, les mêmes politicards, les mêmes patrons peuvent réduire les droits des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des jeunes, des retraités et de tant d'autres personnes sans que cela ne leur semble difficile, même en période de pandémie. Donc finalement, la difficulté est toute relative à l'idéologie finalement qu'on porte. Il ne faudrait pas l'oublier.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de problème de logistique pour réformer le chômage, par
Non,
exemple.
par
C'est
exemple, tu
marrant.
vois, c'est marrant, hein? Donc voilà. Mais pardon, je me suis perdu. Donc oui. Donc évidemment, hein, dans une société capitaliste, les droits du marché sont donc plus protégés que les libertés des humains et des humaines. Je n'oserais y croire. Enfin, si on y croit complètement, hein, parce que c'est un fait. Mais moi et nous, bien d'autres en fait, continuent de penser, hein, de revendiquer que la santé, les vaccins sont des biens communs de l'humanité et qui doivent être accessibles à toutes et à tous à travers le globe, et pas juste voir à l'échelle de son petit nombril patriotard. Donc voilà. À l'échelle de la planète, justement, plusieurs pays, hein, ont fait des demandes dans ce sens, parce que quand même, il y a des trucs qui sont hyper intéressants à savoir, hein, c'est que des pays comme le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore l'Ouganda, par exemple, ont tous payé les vaccins plus cher que ne les a payés l'Union européenne.
Qui sont moins solvables.
Logique capitalistique, toujours les pauvres qui raquent. Plus vous êtes dans la merde, plus votre banque vous prend des agios. On est un peu dans la même logique,
On fait la
hein.
même.
Voilà. Et pourtant, là aussi, hein, à l'échelle internationale, il y a des possibilités de transfert de technologie entre labos et pays, mais les pays riches, hein, vous l'aurez compris, veulent chouchouter, entre guillemets, leur industrie, une sorte de patriotisme économique avec des sociétés qui sont souvent des multinationales. C'est bizarre, non? Enfin bon, c'est sûrement une logique politicarde qu'on ne doit pas comprendre, ou c'est juste du populisme franchouillard et finalement patriotique, parce que ce n'est pas que en France non plus, il hein, ne faut pas se
C'est vrai au
leurrer.
Royaume-Uni, c'est vrai en
Voilà,
plein de
c'est
pays,
exactement ça.
ou en Russie aussi avec.
Mais on retombe toujours dans ces vieilles logiques patriotiques qui puent, en fait. Donc voilà. Alors, en plus, hein, de celles et ceux qui demandent la mise à disposition libre de droit des vaccins, il y a aussi celles et ceux qui demandent une réquisition des outils de production afin de produire un max de vaccins et pas que pour les pays riches. Alors, j'en avais parlé quand j'avais fait un sujet là-dessus en citant justement la CGT en fait de Sanofi, par exemple. Et je pourrais évidemment aussi citer, et je vais les citer, hein, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, qui déjà bien avant en fait la pandémie pardon, sont pour une gestion directe de nos vies et donc aussi de la production des biens qui sont nécessaires à l'humanité. Et je crois que les vaccins, les médicaments font partie de ces biens communs et collectifs.
Oui,
Ouais.
on est d'accord.
Et là, pareil, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est irréalisable, ce sera long, ça prendra entre 2 et 6 mois, etc., etc. Vous aurez compris, on ne peut rien faire. Là encore, hein, un défaitisme des politicards et autres, hein, qu'ils et elles, en fait, n'expriment pas lorsqu'ils réduisent les droits et libertés des personnes, lorsqu'ils détruisent les solidarités ou lorsqu'ils et elles détruisent les biens communs. C'est marrant, non, quand même, vous ne trouvez pas? Ils ont des difficultés qu'ils ne rencontrent pas par ailleurs. C'est marrant, c'est enfin
C'est
bon,
étonnant.
c'est étonnant, c'est tout à fait ça. Donc, je résume, on a une pandémie dont on sait, et pas depuis hier, que la seule porte de sortie sera le vaccin, et qu'ont fait les politicards donc depuis le début, et ben rien en fait qui n'aille dans le sens d'une plus grande production, qui n'aille, rien qui n'aille dans la facilitation de l'accès et de la production des vaccins. Donc, aucune anticipation, pardon. Mais est-ce que c'est vraiment involontaire? Moi, je pense que c'est plutôt parce qu'aucune envie, en fait, de commun et parce qu'aucune envie de ne pas marchandiser la santé, les vaccins et tous ces biens communs à l'humanité. Par contre, ce qu'il ne faudra pas oublier, hein, c'est que ça fait des années que les politicards arrosent les labos tels que Sanofi. Mais là, encore une fois, il faut élargir le nombril. Ce n'est pas qu'à l'échelle franco-française que ça se passe. Donc, ça fait des années, hein, que ce genre de boîte, fait des milliards de bénéfices, des années que ces bénéfices eux-mêmes arrosent les actionnaires, et des années que ces boîtes, finalement, licencient. Et on le voit encore, on avait parlé de Sanofi. Donc, voilà, c'est. Mais il ne faudrait surtout pas contraindre tous ces petits gens. Parce que vous comprenez, c'est impossible. Donc
Non, ça
voilà.
prendrait 2 mois, tu te rends pas compte.
Hein. Oui, c'est ça, en fait. C'est, tu te dis, mais en fait, l'idée des vaccins, elle germe pas depuis décembre qu'on a commencé à vacciner. Donc, je veux dire, depuis le début des réponses où on savait que finalement il fallait un vaccin, ils auraient quand même pu tous s'activer en faisant en sorte de mettre en place une mise en commun des vaccins, de la production. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils ont choisi de faire.
Depuis
Hein.
décembre 2019.
C'est ça. Donc, évidemment, hein, quand la logique économique l'emporte sur la solidarité, pardon, sans frontières, quand la logique de favoriser les intérêts des industriels l'emporte sur la protection de toutes et tous à travers le globe, il serait temps que ceux et celles qui remplissent les urnes, en fait, tous les 5 ans, se rendent compte de leur responsabilité de porter haut ces pourritures, en fait. Parce que ça ne date pas d'hier non plus. Hein. Donc, c'est les votants à qui j'ai envie de m'adresser un petit peu aussi. Et qu'on ne me sorte pas que c'est juste une question de candidat. Parce que quand on a une gauche qui ne parle que de protectionnisme, donc qui est bien recroquevillée sur ses petites frontières, quand elle croit que le monde est encore le monde de papy, il ne ferait pas mieux au pouvoir. Hein. Quant à l'extrême droite, hein, évidemment, je vous invite à aller regarder du côté du Brésil ce que fait ce Bolsonaro. Bah, c'est l'extrême droite, comme toujours, hein. Ce sont des adorateurs du capitalisme et du patronat, même s'ils aimeraient nous faire croire que c'est l'inverse. Mais non, en fait, l'extrême droite est toujours l'allié du capitalisme, ne l'oublions jamais. Et comme on l'a souligné ici, hein, plusieurs fois, la pandémie est un révélateur, du moins aux yeux du plus grand nombre, bah, des fossés qui existaient déjà bien avant. Et cette pandémie nous démontre encore une fois que rien n'est à attendre des VRP du patronat, des VRP des possédants, des VRP du capitalisme, aussi encadrés soient-ils. Et ces VRP, hein, ça s'appelle président, ministre et toutes ces conneries-là. Donc la solution, elle viendra de nous, et rien que de nous, et non pas des urnes et de ce que vous y glissez. Alors, évidemment, je ne peux pas terminer comme ça, parce que je ne peux pas non plus dire que tout est rassurant du côté politique. Dans lequel je me situe, dirons-nous anarchistes, révolutionnaires. Parce qu'entre le facile, je cite, la pandémie, c'est à cause du capitalisme. Ouais, et en fait, parce que genre, si demain, admettons, la société doit basculer dans une société autogérée, ben on devra aussi gérer les conséquences des sociétés qui nous ont précédés. Donc, genre, le réchauffement climatique, genre le nucléaire, genre enfin, plein de choses comme ça. Donc, se cacher derrière ce petit truc, c'est pas. Et même si ça n'arrive pas demain, hein, mettons, dans tous les cas, en fait, on n'arrivera pas sur un caillou, autrement appelé terre, vierge de tout passé. À moins d'être ultra mystique et de je ne sais pas quoi, mais ça n'arrivera jamais. Donc, il faudra toujours gérer les merdes du passé. Et puis, enfin, finalement, dire le capitalisme caca boudin. Comment dire, c'est un peu court en niveau argumentaire, hein, et ça fait pas vraiment avancer les choses finalement, et ça nous laisse toujours dans une position de victime, et qui serait bien qu'on avance des pistes,
Ou
justement,
d'observateur.
ou d'observateur, c'est ça, mais ça serait bien qu'on avance des pistes, en fait, et arrêter de se dandiner sur des petites postures. Donc, effectivement, hein, entre c'est à cause du capitalisme et des anards et autres belles qui peuvent dire le Covid, ça n'existe pas vraiment, ou encore le taux de mortalité, c'est rien. Bref, entre complotisme et relativisme mélangé à l'eugénisme, effectivement, ça ne rassure pas forcément. Ça, j'en conviens. Et j'oublie pas non plus, hein, certaines personnes de mon milieu militant, anars et autres rebelles révolutionnaires, qui, parce que le gouvernement dit il faut porter un masque, tombent dans la réaction la plus infantile du fuck les masques, on ne va pas en mourir. Bref, l'inconsistance n'appartient pas malheureusement qu'aux politicards et politicardes de métier. Ça serait bien trop simple et bien trop facile. Et les réactionnaires ne sont pas toujours là où on pense les trouver. Bref, je n'ai pas de solution miracle. Par contre, je pense que vraiment, ce qu'on doit retenir, ou en tout cas, certains trucs, c'est tâchons de développer l'esprit critique, qui n'est pas la réaction, qui n'est pas binaire. Développons l'esprit scientifique. On essaye ici à notre toute petite échelle, hein, mais il faut multiplier ces échelles de compréhension de la science, etc., etc. Et développons nos idées, parce qu'on en a, on en porte. Comme je le disais, les anars et les anarcho-syndicalistes portent depuis des années, des siècles, la notion d'autogestion de nos vies. Et ben, je pense que dans ces situations-là, je pense que ce serait totalement différent. Donc voilà. Et au milieu de tout ça, on n'oublie pas aussi un truc très important, c'est l'éthique. Voilà. Je termine un peu comme ça mon sujet, mais voilà, c'était un coup de gueule, des réflexions et que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si ça fera avancer, mais en tout cas, ben, ça fait du bien à sortir.
Il est toujours bon de s'interroger.
Bon, bah, voilà. Alors, bah, restons sur cette,
sur
cette remarque et on se dit à tout de suite après un petit instant de musique. On the key. Step it up, step it up, step it up against the violence on the children. Step it up, step it up, step it up against the violence on the key. Step it up, step it up, step it up against the violence on the children. Step it up, step it up, step it up against the violence on the key. I use your power, abuse of your authority. You only building capability. You baseness to your brutality. You make the children lose self-confidence, cause you don't have any self-assurance. You wanna blame the children for your personal problem. Most of the people, they might be slapping child. That's a sad reality.
Violence on the key.
Et vous êtes de retour, enfin, en tout cas vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter un titre de Foi Kadub et de Daman. Et le titre c'était Stop Violence Against Children. Et je remercie Daman de partager la musique et sur une thématique qui nous tient quand même assez à cœur dans la causerie. C'est évidemment ces violences que subissent les enfants à travers le globe. Eh bien, c'est Fab qui prend la suite.
Ouais.
Et tu vas nous causer...
Jeunesse !
Youpi !
Et oui, comment rester jeune ? C'est dans la tête que ça se passe. Oui, ça s'appelle une pub. Hein, mais ouais. Voilà. Alors, vous avez déjà toutes et tous entendu ce fameux adage « l'âge est dans la tête ».
Ouais.
Hein, tout le monde vous a déjà dit ça, « l'âge, c'est dans la tête ». Ou l'autre adage qui est totalement idiot, « tu as l'âge de tes artères », ce qui ne veut strictement rien dire. Ouais. Eh bien, figurez-vous que, en fait, ben, l'âge dans la tête, c'est vrai. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ce n'est pas n'importe qui l'affirme. Ce sont des chercheurs et chercheuses qui ont fait des études sur le long terme, sur des groupes de personnes, et qui constatent que oui, l'âge, c'est un peu, beaucoup, et même carrément, un état d'esprit. Voilà. Alors, soyons clairs. Le corps vieillit, que vous le vouliez ou non.
Oui, ce que j'allais dire, il y a quand même des choses que tu ne peux pas,
voilà.
Tu peux pas retenir.
Vous ne serez pas la même personne à 80 ans qu'à 40, ni à 40 qu'à 20 ans. Voilà, que vous le vouliez ou non, ça, c'est sûr. Même si cette société pousse à une forme de jeunesse éternelle, nous enfermant dans des stéréotypes de corps et de façon d'être, figurez-vous que cela n'aide en rien à rester jeune. Eh ouais, se conformer à la norme serait même un des facteurs du vieux con ou de la vieille conne. Voilà, j'y reviendrai, hein, mais ce soir, on va donc parler de ce qu'est le sentiment de jeunesse et de ce qu'est être jeune d'un point de vue de nos neurones aussi. Ouais. Alors, le sentiment de jeunesse, parce que ça, c'est important, c'est quelque chose qu'il faut définir. Tout d'abord, notons que la jeunesse, ça ne veut strictement rien dire. Bah ouais, parce qu'elle est avant tout un moment de la vie et elle est légalement encadrée. On vous dit que de tel âge à tel âge, vous êtes un enfant ou bien, en gros, légalement, la jeunesse se termine à la majorité, soit 18 ans en France. Voilà.
C'est ça.
En gros, c'est ça. Donc, le fait d'être jeune n'est pas clair et difficile à définir.
Oui, oui.
C'est quoi être jeune ? Après tout, à 20 ans, vous trouverez que les gens de 30 ans sont vieux.
Oui.
Mais quand vous allez arriver à 30 ans, vous vous sentez souvent encore jeune. Et puis bon, vous dites que c'est les gens de 40 qui sont vieux. Voilà, et puis ainsi de suite.
Oui.
En fait, la jeunesse, c'est relatif,
oui, c'est
tout simplement. Alors, il faudrait bien fixer des critères pour savoir ce qui permettrait de dire que l'on resterait jeune, comme l'affirme elle ou Marie-Claire en une régulièrement. Voilà. Eh bien, en fait, les scientifiques ne parlent pas du tout de rester jeune. Ça, c'est les journalistes qui en parlent. Les scientifiques, ils parlent de bien-être global. C'est-à-dire que ce qui est mesurable, contrairement à ce que disent les magazines, ce n'est pas un sentiment de jeunesse éternelle ou je ne sais quoi, c'est un sentiment de bien-être. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre vie, dans ce que vous vivez ? Et ben pourquoi ? Parce que le premier mot, la jeunesse, c'est marketing, rester jeune, alors que le second, là, qui se mesure plus facilement, c'est un état et c'est scientifique.
Ouais.
Et comme d'habitude, le scientifique, ça fait moins vendre que le marketing.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et donc, on ne parle pas de rester jeune, mais bien de bien vieillir en réalité. Ah, voilà, vous voyez, les scientifiques, c'est de ça dont ils parlent. Dehors le marketing et le capitalisme, et bienvenue dans la vie. Alors, bien vieillir, du coup, parce qu'on va quand même utiliser les bons termes.
Qu'est-ce
quels critères ? Il faut fixer des critères pour
savoir
comment on vieillit bien. Alors, il y a plusieurs études qui ont été menées, mais en gros, elles reposent toutes sur des critères assez proches qu'on peut résumer en trois grands critères. En fait, le premier, c'est est-ce que vous vous ennuyez souvent ? Ça va être la question qui va
D'accord.
se poser. Le deuxième, c'est est-ce que vous vous sentez seul ? Vous sentez-vous seul ? Et le troisième, vous sentez-vous parfois vide ou déprimé ? Voilà. Les trois axes de réflexion, en fait, ils peuvent se résumer sur ces axes-là. Ces trois simples questions, elles permettent en fait de couvrir l'ensemble des domaines de la vie. Attention, hein, j'ai fortement résumé. Vous vous doutez bien que dans les études, cela repose sur des questionnaires plus larges et plus complexes. On va déconner quand même. Mais pour donner un exemple, la maladie va souvent se jouer sur le plan de la déprime. Donc, on va se sentir déprimé, vide, vidé, voilà. L'isolement sur le plan du sentiment de solitude. Et on voit ça aussi avec le manque d'envie sur l'ennui. Voilà. Donc, en fait, ces trois grandes questions, elles vont, en se croisant et en croisant les critères, devenir des axes qui restent pertinents pour juger du bien vieillir.
Ouais.
Voilà. Mais c'est encore une fois, hein, c'est une classification. On va être très clair, ça reste très subjectif. Hein.
Oui.
Voilà. Mais c'est… Voilà. Alors, ça donne quoi ? Déjà, deux choses sont certaines. Être un super-héros au corps parfait, bah, ça ne rend pas plus heureux que d'avoir du bide. Alors, je suis désolé, mais en effet, ce n'est pas l'apparence physique qui semble rendre heureux, mais bien un sentiment d'être en bonne santé globalement. Autrement dit, inutile de vous transformer en super marathonien si vous ne le souhaitez pas, parce que vous pouvez avoir envie d'être un super marathonien. Hein. Préférez faire 30 minutes d'effort, marche hein, par exemple, voilà, par jour pour maintenir votre corps en bonne santé et surveiller l'alimentation. Généralement, ça suffit à se sentir bien dans son corps sans qu'on ait envie derrière de déprimer parce qu'on n'a pas un corps parfait. Et que vous soyez gros ou maigre n'a finalement que peu d'importance sur votre sentiment de bien vieillir. Ce qui va par contre jouer, c'est la façon dont on vous regarde ou ce qu'on vous renvoie. Mais pour vous individuellement, si vous dépassez cet effet de regard, ça devrait aller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, une santé maîtrisée avec un suivi médical régulier aide aussi. Tous les gens qui se font suivre médicalement régulièrement, ils évitent en fait le stress de ne pas savoir ou de penser avoir quelque chose. Bah ouais, parce qu'il vaut mieux être sûr que de se dire j'ai un cancer. Vous voyez? Là aussi, des personnes qui semblent le mieux sont celles qui savent ne pas rester avec des questions sur leur santé ou dans le déni. En général, ça aide de savoir, d'aller voir un médecin, de se renseigner. Voilà. Et aussi, il faut savoir dormir. Et oui, parce que bizarrement, un bon sommeil, c'est ce qui influe le plus sur notre humeur. Et l'humeur influe sur tout le reste. Donc voilà. Et c'est ce que les scientifiques appellent en fait le package, c'était le nom qui était donné, le package du minimum pour bien vieillir. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, dans trois études, deux menées en Europe sur 15 ans et sur 800 personnes, et une américaine sur 20 ans et sur 3000 personnes, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est assez
Oui,
large,
c'est pas.
des faits sortent clairement du lot pour se sentir bien dans l'âge et bien vieillir.
Ouais.
Voilà.
En fait, finalement, c'est vachement lié à l'épanouissement
Eh bien,
individuel, en
et ben
fait.
pas que, on va y
OK.
revenir. Ben parce que oui, mais pas que. Tout d'abord, ce qui semble le mieux marcher pour bien vieillir, c'est de rester curieux. Et oui, la curiosité n'est un péché que pour les religions qui veulent nous empêcher de vivre, hein, finalement.
C'est vrai.
Car dans les personnes qui ont été suivies dans ces études, c'est bien le fait de se cultiver, de rester curieux, ouvert d'esprit, qui fait que les gens se sentent bien. Et quand on parle de se cultiver, ce n'est pas couvrir des livres, hein. C'est aussi des films, des documentaires, rencontrer des gens qui viennent d'autres pays, par exemple, des choses comme ça. C'est au sens large le fait de se cultiver. Mais aussi, paradoxalement, les jeux vidéo et Internet. C'est-à-dire qu'en fait, il a été démontré que quelqu'un qui, par exemple, a 80 ans et qui va sur Internet se sent souvent beaucoup moins seul et beaucoup plus connecté au monde que quelqu'un qui reste enfermé chez lui, évidemment. Et en fait, derrière cette notion, c'est aussi le fait de rester finalement connecté au monde qui compte, connecté à ce qui se passe autour de soi. Ensuite, le fait d'avoir des amis solides, c'est pour ça que ce n'est pas que
Non,
individuel,
mais alors,
le fait d'avoir des amis solides aide aussi à ne pas s'enfermer sur soi et donc à vivre plus sereinement. Alors attention, hein, c'est ce que disent les rapports de ces études, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 amis. C'est le fait de savoir qu'on peut compter sur des gens qui, même quand on ne les a pas vus, par exemple, depuis 6 mois, eh ben, au premier coup de fil, ils sont là et où ils peuvent discuter, des choses comme ça.
Oui, ben je précise, j'affine, mais quand je disais épanouissement personnel, individuel, c'est surtout, évidemment, en fait, c'est chacun voit aussi son épanouissement propre à lui-même, en
Oui,
fait.
tout à fait.
Et ça ne veut surtout pas dire être seul, ça c'est sûr.
Tout à fait. Et donc, il n'y a pas d'âge pour avoir des amis.
Ben non.
Voilà. Mieux encore, plus votre cercle d'amis est divers en termes d'âge, par exemple, vous avez des amis qui ont 20 ans de moins ou 20 ans de plus que vous, et plus vous vous sentez serein face à l'avenir selon les réponses qui ont été données. Et ça, c'est lié à un phénomène tout simple, c'est le fait de savoir qu'on peut vieillir et le voir autrement qu'à travers le vieillissement de ses proches, de ses parents ou autres. Voilà. Autre point, il faut avoir des passions et les assumer. Parce que ça, c'est le point important, c'est les assumer, ces passions. Parce qu'avoir des passions, c'est une chose. Aller au bout et les assumer, c'est autre chose. Vous avez 80 ans, mais vous kiffez Aya Nakamura. Vous avez 20 ans et le point de croix vous passionne. Ben, rien à faire, rien de grave. Le fait d'avoir des passions et de le vivre, même si elles ne sont pas de notre âge, hein, comme dirait la société dans son grand ensemble, et ben, en fait, ça semble apporter beaucoup de bonheur et de bien-être, en fait. Alors, les scientifiques, ils ne parlent pas de bonheur, ils parlent plutôt de bien-être, puisque le bonheur, c'est une donnée subjective. Voilà. Le bien-être, ça se mesure à peu près. Un exemple donné dans un article que j'ai lu. Une arrière-petite fille et son arrière-grand-mère chassent ensemble les Pokémon sur un jeu vidéo sur smartphone. Voilà. Et la jeune femme de dire, le pire, c'est que mamie, elle connaît mieux les noms que moi. Voilà. Et l'aïeul de dire, les gens sont souvent dans le jugement, mais moi, j'adore. Je passe du temps avec ma petite fille et en plus, j'adore collectionner ces bestioles. Avant, je n'osais plus sortir de chez moi et j'attendais la mort. Aujourd'hui, j'attends la sortie du prochain jeu. Voilà. C'est juste pour donner un exemple un peu comique de tout
Mais
ça.
c'est...
Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. Évidemment, sous tout ce dont on parle, et c'est là que le collectif rentre en ligne de compte, ne tient pas compte des moyens matériels. C'est-à-dire que oui, il est évident que si vous manquez d'un logement décent et de moyens pour vivre, vous pouvez bien appliquer tout cela. Ça ne changera
Ouais,
rien au fait que vous
clairement.
êtes dans la galère et que ce sera, et que c'est pas ça qui va vous permettre de vous sentir mieux. Mais c'est là que l'action politique et collective est importante. Voilà, ça, je vais faire cette parenthèse. Alors, un point qui semble aussi important, c'est la franchise. Eh oui, la franchise envers soi, mais aussi envers les autres. Savoir si oui ou non on aime quelque chose et si on a envie de le faire est très important. Voilà. Et donc, savoir dire non, dire ce que l'on a sur le cœur, semble être une des clés du bien vieillir. Comme le dit une participante américaine de l'étude américaine, donc du coup, on passe notre temps à avoir des contraintes liées à notre travail, inutile de s'en ajouter trop dans la vie.
Carrément.
Voilà. Ça va prendre du temps pour soi aussi, est très important. En fait, certains parlent de la méditation, d'autres de lire, d'autres de se masturber. Mais en fait, l'idée est simplement de savoir se centrer sur soi et pour soi. Une dose d'égoïsme, en fait, au sens positif du terme, aide à se sentir bien dans nos vies, en réalité. Cela aide d'ailleurs à savoir ce que l'on aime dans bien des domaines, que ça soit dans la lecture, dans la méditation ou dans la sexualité. Voilà. Et donc, ça permet de s'interroger, de continuer à rester curieux. Et hop, on revient à l'idée de rester curieux. Enfin bref, c'est sans fin cette histoire. Voilà. Et donc, les deux points précédents nous amènent à une chose claire. Savoir se débarrasser des personnes négatives autour de soi. Et ça, c'est aussi ressorti des trois études. C'est-à-dire que les gens qui savent mettre au loin les personnes qui sont là pour pomper leur énergie plus qu'autre chose, ben, en fait, ils se sentent mieux dans leur vie. Les personnes qui ne nous amènent rien, incapables de vous donner uniquement là pour vous pomper de l'énergie et de la vie, ben, en fait, ce sont des personnes qui sont là pour vous servir de sac à dos avec des pierres, comme dirait une des participantes. Selon Anna Bels, c'est son vrai nom, elle s'appelle Anna Bels, mais en deux mots, cloche en anglais, psychiatre américaine, oui, ça fait Annabelle. L'âge doit nous apprendre à savoir dire non, à mettre à distance les gens qui nous négativent et nous blessent, et surtout à savoir reconnaître ceux qui nous apportent. Et elle précisait un peu plus loin que apporter, ça ne veut pas dire être dans un échange un pour un.
Oui, oui, oui.
C'est simplement que bah, y a des gens, bah, oui, ils ont des formes de façon d'être avec vous qui peuvent vous apporter tout simplement du bien-être et que c'est bien. Voilà.
Oui, des fois, c'est même pas forcément palpable en fait.
Oui, c'est-à-dire
que c'est pas un échange de bouquins ou de je sais pas quoi, c'est ça peut être une attitude, une jovialité ou autre chose d'ailleurs. Enfin, c'est...
Autre point qui ressort de ces trois études, savoir rire et rire de soi. En particulier, c'est un facteur de mieux-être. L'humour semble un facteur du bien vieillir car, comme le dit un autre psy dont j'ai perdu le nom, le rire est la capacité à mettre à distance et donc à savoir mieux apprécier. Mmh. Eh oui. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de dire.
Voilà. T'inquiète.
Alors, est-ce que c'est une formule magique tout ça? Ben justement, non. C'est tout sauf une formule magique en réalité. Il ne suffit pas de dire « je vais appliquer cela et tout ira bien ». Ce serait versé dans le développement personnel et toutes ces conneries qui nous éloignent de l'essentiel, c'est-à-dire être soi en réalité. Au fond, si on reprend tout ça, on peut tirer des conclusions rapides et totalement subjectives, encore une fois. Préférer la philosophie, le partage, le dialogue sont bien plus efficaces que n'importe quelle méthode toute prête pour aller bien. S'accepter, accepter ce que l'on est, ce que l'on aime, c'est un chemin plus gratifiant que n'importe quel carcan moral, religieux ou sociétal. Voilà. Refuser les étiquettes, les barrières qu'impose la gestion capitaliste de notre société, voir le beau par ses yeux et pas parce que on nous l'impose et on nous dit que ça c'est beau, rend plus heureux. Ne pas se fier au matériel et à l'accumulation, mais à l'amitié et au bon moment, est plus efficace pour bien vieillir. Apprendre à être seul parfois pour mieux revenir vers les autres, comprendre qu'on ne se fait pas seul, mais avec plein d'interactions et avec plein de gens. Chercher l'altérité plutôt que l'entre-soi, bah, ça semble bien être aussi une des clés du sentiment de bien-être. Voilà. Mmh. En fait, si on résume encore plus, rester critique, rebelle face à une société de cases et d'étiquettes, refuser les carcans, explorer les limites, bah, c'est la clé du bien vieillir. Pour vivre vieux, vivons curieux. Pour vivre bien, vivons comme des lapins. Enfin, je n'avais pas vraiment de phrase. Donc je me suis dit, je vais tenter un truc. Parce que j'essayais en fait de prêcher pour ma paroisse et de me lancer dans le développement personnel, mais je ne suis pas très doué.
Hein,
voilà.
C'est foutu, là, à part, tu vois ton plan.
Voilà. Blague à part, il est intéressant de voir que sortir finalement des sentiers battus, c'est le meilleur moyen de bien vieillir.
Mmh.
Voilà.
Ouais. Et vraiment de ne pas vouloir se conformer finalement à ce qu'on devrait tous être pareil. Alors qu'en fait, on a tous aussi nos individualités,
c'est
en
ça.
Fait, et vraiment, enfin, C'est toujours assez flippant de se dire on veut une solution identique pour tout le monde. Sauf qu'en fait, ça c'est nier ce qu'on est.
Bah, toutes les méthodes de développement personnel, de machin, de
Oui.
bouquins qui vous disent lisez les 10 tantras et ça ira mieux, en fait, ça ne peut pas marcher parce que, on est tous des individus et on
Oui,
a tous
oui.
des façons d'aimer et d'apprécier les choses différentes.
Oui.
Moi, je fais une petite parenthèse parce que j'y pense, mais j'aime beaucoup aller dans des conventions de cosplayers ou de choses comme ça et de plus en plus, on voit des cosplayers âgés. C'est-à-dire ce qui se voyait très peu avant, mais maintenant on voit des gens, bah, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font du cosplay et continuent à 50, 60, 70 ans à faire du cosplay. Et en fait, si au départ ça a pu être surprenant, aujourd'hui, bah, on voit que c'est juste que ces gens, ils kiffent. Et quand on kiffe, en fait, on est bien. Et quand on est bien, en fait, on sort cette petite bulle, ce moment, en fait, qui fait un bien fou dans la vie. Et ça coûte rien, en fait, en réalité. Et juste, je dis ça au hasard, mais arrêtez de juger les autres. Commencez par vous regarder vous-même et à essayer de faire des trucs qui vous font kiffer vous et laisser les autres kiffer ce qu'ils aiment. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, mais c'est juste, je me dis, ouais, évitez les trucs en 10 leçons,
Oui, c'est
ça sert
ça.
pas à grand-chose, franchement.
Ça nie votre
Et
individualité.
restez curieux.
C'est ça. Eh ben, Kizako, on
Eh bien, en parlant de
fait.
curiosité, on va faire une pause musicale très curieuse.
Eh ben, allons-y.
Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. De ce carcan qui m'enferme dans toutes ses règles, ils me disent de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer. Alors je cherche et je trouverai cette vie qui me manque tant, qui me manque tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Une fille pas trop timide, mais une bonne dose de savoir-faire, savoir-faire. Je la vois dans mes rêves, je la vois sur mes murs. Elle serait belle, elle serait tellement mienne que ma vie serait terne si je ne la voyais plus. J'aimerais sentir ce truc qui ferait battre ma tête et faire penser mon cœur. C'est celui que j'aime là pour penser mon corps. Quand l'orage se réveille, que j'y repense encore. La solitude revient tous les soirs dans le but de me séduire. Des conquêtes qui mènent à des désirs, de trouver celle qui ne me ferait jamais fuir. Alors je cherche et j'espère trouver
cette fille qui me manque tant, qui me manque tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Une fille pas trop timide, mais une bonne dose de savoir-faire, savoir-faire. Cherche partenaire particulière, une fille pas trop timide, mais une bonne dose de savoir-faire, savoir-faire.
Coucou toi, c'est gentil d'être resté pour écouter la causerie au 102.2 sur radiocabu.org. Et donc là, on parlait juste avant de rester curieux. Alors, on vous a passé une petite curiosité et c'était Colas avec la reprise de Partenaire particulier. Voilà, ben moi j'ai trouvé ça vraiment bien, donc j'avais envie de vous le partager.
Mais tu fais bien.
Voilà. Et donc ben là, on va passer un petit documentaire sonore et
Ouais.
Clara, elle va nous présenter un petit peu tout ça.
Bon, rapidement, en tout cas. Donc, il s'agit d'un documentaire dans le cadre des violences faites aux femmes. Un mini-documentaire de Mathéo Dugaste qui date de 2019 et qui s'appelle « Excision, 5 minutes pour comprendre ».
Nous sommes 200 millions de filles et de femmes excisées dans le monde, et 3 millions de plus chaque année. Violences que subissent mères et filles et qui se transmettent dans le plus grand secret afin de perpétuer la tradition. Ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres du sexe féminin, mutilation, castration. Des femmes blessées à vif, blessées à vie dans leur intimité, cette douleur ancrée à l'intérieur d'elles-mêmes, trahies à jamais. Personne ne m'a dit ce qui allait se passer. On m'a allongée sur le sol, on m'a tenu les bras, les jambes, des femmes ont écarté les cuisses, elles m'ont retenue de toute leur force et ont coupé, recoupé. L'excision varie selon les pays, des gestes les plus rudimentaires au sein du village traditionnel, aux techniques médicalisées n'enlevant rien à la gravité de ces pratiques qui peuvent entraîner infection, septicémie, hémorragie ou mort de l'enfant. Apparue il y a 4000 ans en Égypte, où elle touche encore 91% des Égyptiennes, l'excision sévit aujourd'hui dans 29 pays d'Afrique et contrairement aux idées reçues, elle est pratiquée aussi en Indonésie, en Inde, au Moyen-Orient et dans quelques pays d'Amérique du Sud. L'excision accompagne les femmes tout au long de leur vie. Complications urinaires, rapports sexuels douloureux, risque de fausses couches, accouchements dangereux pour la mère et l'enfant. Beaucoup porteront les graves effets de ce traumatisme psychologique pour toujours. En France, malgré le risque de lourdes peines, 3 adolescentes sur 10 dont les parents sont originaires de pays pratiquant l'excision risquent de la subir. L'excision est une norme sociale. Abandonner la pratique des mutilations sexuelles féminines doit se décider collectivement. Nos parents nous soumettent à l'excision pour nous garantir un avenir dans la société et parce qu'ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. Une femme non excisée est jugée impure et ne peut se marier. Certains justifient ces mutilations en s'appuyant sur la religion. Pourtant, aucun texte ne prescrit cet acte, toute religion confondue. Il est nécessaire d'encourager les changements de comportement par le dialogue et la réflexion au sein des familles et des communautés. Associations, organisations religieuses, structures éducatives, médecins et gouvernements concentrent tous leurs efforts pour lutter contre ces pratiques. L'excision n'est pas qu'une affaire de femmes. La force de décision masculine pourrait faire changer radicalement les choses par le pouvoir que détiennent les hommes sur leurs familles, sur leurs filles et leurs femmes, sur leurs futures épouses. Parmi les victimes de l'excision, certaines ont créé ou rejoint des associations engagées contre les violences faites aux femmes, métamorphosant l'épreuve subie en lutte politique. Courageuses, elles se sont unies pour mettre un terme à cette pratique. Leur rêve, et de faire cesser l'horreur à jamais.
Donc voilà, on a passé le sonore de ce documentaire, mais en fait, en réalité, c'est un documentaire filmé au départ que vous pouvez trouver assez facilement sur les plateformes qui diffusent de la vidéo. Donc voilà, vous tapez,
Excision,
Excision, 5 minutes pour comprendre.
Voilà.
Et vous de Mathéo Dugast.
Et on le mettra de toute façon sur le blog de façon à ce que vous puissiez le retrouver plus facilement. On va rappeler que la causerie, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'excision, qu'on a reçu deux ou trois fois le GAMS, qui est le groupe d'action contre les mutilations sexuelles.
Et les mariages forcés.
Je cherchais, merci. On vous invite à réécouter les émissions où on a reçu le GAMS. Vous allez dans le moteur de recherche du blog, vous tapez GAMS, G-A-M-S, et vous allez tomber sur ces deux ou trois émissions très, très bien.
Oui, parce qu'on avait aussi recueilli le témoignage de Amina. Et peut-être qu'elle nous écoute, on lui passe un grand, grand bonjour. Et qui va aussi témoigner de la fuite qu'elle a fait de son pays pour protéger ses filles de l'excision.
Voilà,
donc la lutte continue et elle n'a pas lieu que le 8 mars.
On fait une petite pause musicale. Mais avant, on va quand même conseiller aux gens de pousser les meubles, de se lever, parce que si vous arrivez à ne pas bouger avec cette musique, je ne sais pas comment vous faites.
C'est pas faux. À toutes. We'll be right back.
vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, on vient de s'écouter Buraka Sum Sistema featuring Pongolov, et le titre Kalamba Wege Wege.
C'est ça.
Et c'était très bon, bien dynamique.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. On va juste rappeler une ou deux petites choses. Mmh. Mais déjà, on va faire part notre soutien à la librairie La Plume Noire sur les pans de la Croix-Rousse et aux militants surtout, parce que finalement, des vitres, c'est des vitres, mais c'est surtout les militants qui étaient dans le local, qui ont été attaqués par une cinquantaine de fachos. Lyon, cette grande ville de fascistes quand même, il ne faudrait pas se mentir. Donc voilà, soutien à ces militants et ces militantes Voilà, la lutte antifasciste aussi continue et ne s'arrêtera pas de sitôt.
Et il y aura donc une manifestation le 3 septembre.
Non, le 3 avril.
Le 3 avril, parce que je ne sais pas pourquoi.
C'est un peu loin, septembre.
Oui, alors je ne sais pas, j'avais envie qu'on soit en septembre. C'est peut-être le confinement que je trouve long, mais bon. Donc le 3 avril, pardon, à 14h, place des Terreaux, normalement, si la préfecture le veut bien, hein, c'est toujours le même problème en ce moment.
Et le confinement est tombé entre-temps.
Mais en tout cas, théoriquement, c'est donc le 3 avril à 14h, une grande manifestation contre le fascisme. Voilà. Et sinon, moi, j'ai une autre information, c'est que, Covid, mais sida. Ouais. On a tendance un petit peu à l'oublier, hein, celui-là, mais il est toujours là, il fait toujours autant de morts dans le monde et il est toujours en progression en termes de contamination. Donc, c'est le SIDAction en ce moment et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'avais envie de vous inviter à soutenir des associations qui aident les malades, des associations qui font de la prévention, de soutenir le SIDAction si vous voulez soutenir le SIDAction, mais en tout cas, parlez du sida, informez-vous. Informer vos enfants, surtout parce qu'on sait qu'aujourd'hui on n'en parle plus assez aux jeunes et que c'est pour ça qu'on voit remonter les contaminations, malheureusement. Donc voilà, c'est le SIDAction en ce moment, c'est un moment, moment aussi d'y penser. Je sais, c'est pas facile, il y a déjà une pandémie, celle-là elle est aussi, des fois elle se croise et ça fait bien chier oui. D'ailleurs. Voilà, donc faites comme vous voulez, mais faites.
Et ben voilà, et ben je crois qu'on a tout dit, tout le monde a tout dit.
Oui.
Oui, c'est tout bon. Et bien alors, on va vous laisser et on va se quitter. Je l'annonce avec le tout nouveau titre qui est sorti, je crois, avant-hier pour vous, mais vendredi en tout cas pour nous, enfin pour tout le monde finalement. Donc, c'est Angélique Kidjo avec Yemi Alad et le titre c'est Dignity. Voilà. Et on vous laisse là-dessus. On vous souhaite bon courage pour les jours à venir. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours de 22h à 23h sur l'antenne de Canu, même si c'est confiné, même si c'est en différé. On espère que vous prenez quand même plaisir à nous écouter, autant qu'on prend plaisir à le faire malgré toutes les conditions et contraintes qui ne nous arrangent pas forcément. Et bien voilà.
Et on va quand même remercier les copains d'Den Moon Knight parce que sachez qu'une fois sur deux, on diffuse ou c'est eux. Donc voilà, et donc on les remercie vraiment et puis de faire une aussi bonne émission qui relève les cœurs juste avant notre émission.
Voilà. C'est exactement ça. Allez, bonne soirée, bonne semaine. Des bisous. Des
bisous, salut.
Ciao, ciao.
Kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity, can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you.
Were you there yesterday when the gunman shoot men down? No retreat, no surrender, if them push you no fall down. Many come, many go, we know the sleep, we dey borrow.
when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender, if them push you no further. Many come, many go, we know the sweet today, tomorrow, coming.